C'est en 1846 qu'a été décrite pour la première fois la trisomie 21. C'est le médecin psychiatre Édouard Seguin qui en est à l'origine, à la Salpêtrière, en décrivant donc le faciès particulier des personnes ayant une trisomie. C'est ce chromosome 21 en plus qui donne aux personnes trisomiques cette singularité, souvent à l'origine de stigmatisation et à l'origine de cette journée internationale. On s'intéresse cet après-midi au regard porté sur cette maladie pour comprendre comment mieux accompagner les familles. J'attends vos messages, vos témoignages et vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la gestion du stress des candidats à l'élection présidentielle.
Un visage qui trahissait l'inquiétude, un rire faux ou une posture d'animal aux aguets prêt à bondir. Vous avez peut-être observé ces comportements lors du débat télévisé d'hier soir entre les 5 favoris. Alors, comment se prépare-t-il à de telles situations de stress? On en parle avec le psychiatre Patrick Légeron.
Et puis, a-t-on détecté ITI sans le savoir? C'est ce que nous dira Pierre Barthélémy tout à l'heure dans sa chronique de Science Improbable. Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Comment changer le regard de la société sur la trisomie 21, dossier donc de l'émission dans un instant. Je salue mes invités avec moi en studio, la sociologue Karine Vassy, bonjour.
Bonjour.
Et en duplex des studios de France Bleu à Nantes, Élodie Bourdin, vous êtes la présidente de l'association Rien qu'un chromosome en plus et maman de 3 enfants trisomiques, bonjour à vous.
Bonjour.
Élodie Bourdin, est-ce qu'en tant que parent justement de 3 enfants trisomiques, vous devez lutter tous les jours face au regard de la société?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a le regard et la stigmatisation. Les deux sont importants. Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est le regard de la société aujourd'hui, le regard des adultes surtout.
Karine Vassy, cette stigmatisation, justement, elle commence très tôt, visiblement, dès le dépistage prénatal.
Ben oui, la simple existence d'un test de dépistage prénatal, la trisomie 21, traduit ce regard négatif porté sur l'anomalie chromosomique.
Vous avez mené tout un travail justement de sociologie autour de la stigmatisation, on va en parler dans un instant, pour ce dossier consacré donc au regard posé sur la trisomie 21 avec les messages et les témoignages des auditeurs. Près de 10 millions de personnes ont regardé le débat télévisé entre les favoris à la présidentielle hier soir, un moment crucial pour les candidats, forcément facteur de stress. Comment justement gère-t-il de tels enjeux, mais aussi la pression, la fatigue ou les attaques en période préélectorale? Patrick Légeron, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes fondateur du cabinet Stimulus, vous exercez également à l'hôpital Sainte-Anne et vous expliquez dans une interview au magazine Science et Avenir comment les politiques se préparent justement à ce type d'épreuve lors de campagnes présidentielle par exemple. Alors le débat télévisé d'hier soir, c'est un niveau de stress très élevé pour les favoris a priori.
Oui, bien sûr, tout à fait, mais ce débat intervient dans un contexte de stress permanent depuis de longs jours, voire de longues semaines. Et ce qu'il faut noter, c'est que le stress des politiques, comme d'ailleurs le stress des grands dirigeants, c'est un sujet relativement tabou, parce que avouer et connaître le stress, pour certains, est synonyme, j'allais dire, de faiblesse ou même de manque de légitimité au poste de candidat.
Quel type de stress, à quel type de stress sont confrontés les hommes politiques?
Il y a deux types de stress, comme c'est toujours le cas. D'abord, un stress extrêmement physique, puisque évidemment, les journées sont très longues. Ils commencent souvent très tôt sur les plateaux de radio, de télévision. Ils enchaînent les réunions. Ils terminent par des meetings fort tardifs et ils se déplacent. Donc, on imagine que la fatigue physique est importante, mais c'est aussi la fatigue psychologique, c'est-à-dire... Par exemple, un événement comme celui d'hier soir, c'est être confronté à une situation où il faut performer. Et les chercheurs et les scientifiques connaissent bien ce qu'on appelle le stress de la performance. Que quand on est un sportif de haut niveau ou même quand on est un étudiant qui passe un examen oral, eh bien, l'enjeu de réussir est fondamental. Et donc là, évidemment, c'est important. En plus, la gravité d'une erreur, un petit mot qui est lâché, qu'il ne fallait pas, peut être catastrophique. Il y a 100 000 exemples d'événements politiques où justement une petite erreur a eu des conséquences dramatiques. Et puis aussi la confrontation à plein de situations émotionnellement extrêmement chargées, la violence des attaques, le sentiment aussi d'être dénigré, d'être exposé devant tout le monde. Et pendant en effet la grande tribune d'hier, ce grand débat présidentiel, on peut observer des comportements aussi bien au niveau des attitudes qu'au niveau des visages qui témoignent d'un certain niveau de stress, qui d'ailleurs n'est pas forcément inutile, ça peut aider les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Alors, quel regard justement le psychiatre que vous êtes a-t-il porté sur les candidats hier soir? On sentait une tension chez tous d'ailleurs.
Ce qui est normal. Vous savez, le stress n'est pas une pathologie, le stress n'est pas négatif, et au contraire, un peu de stress vous dynamise, donc il faut souhaiter qu'ils connaissent tous le stress à ces moments-là. Le problème, c'est la dose. Et donc, on a observé en effet des moments où les candidats étaient stressés. Alors, c'est très intéressant parce que le stress peut nous conduire à adopter diverses attitudes. Il y a d'abord l'attitude d'être figé, de ne rien dire, un peu comme un animal pris dans les lumières de votre voiture sur une route la nuit. Et donc, cette espèce de d'immobilisme complet, on l'observe évidemment chez François Fillon au tout début, mais on voit aussi
une forme d'appréhension.
Pardon ?
Une forme d'appréhension.
Oui, d'appréhension, et le stress qui paralyse un petit peu, on reste un petit peu à ne rien dire, et au contraire, on voit l'autre aspect du stress, qui n'est pas simplement l'inhibition, mais plutôt l'attaque, et on a bien vu certains candidats réagir de manière assez forte, d'ailleurs assez intelligemment parfois, mais de manière assez forte à une pique qu'ils peuvent recevoir. Donc on voit un petit peu tous ces aspects du stress qui opèrent pendant cette confrontation, mais comme je le disais tout à l'heure, un certain niveau de stress les dynamise extraordinairement. Le problème, c'est que il faut savoir gérer le stress. Et c'est pas uniquement pendant cette intervention que le stress doit être préparé. Je crois que les hommes politiques, en tout cas qui veulent gérer leur stress et ils en ont besoin, font extrêmement attention d'abord à leur hygiène de vie. Souvent, ils ne consomment pas d'alcool, ils préservent leur sommeil, ils utilisent des techniques de relaxation tout au long des jours qui passent. Mais également, je crois que c'est l'aspect psychologique qui est le plus important. Et cet aspect psychologique, certains sont coachés, certains font appel discrètement parce qu'ils ne veulent pas toujours avouer qu'ils ont besoin un petit peu de cette aide psychologique à affronter quand même un environnement extrêmement stressant au quotidien et en particulier lors de confrontations comme ce débat présidentiel.
Patrick Légeron, on va écouter Jean-Luc Mélenchon qui est un des rares d'ailleurs à s'exprimer vraiment sur son hygiène de vie. C'était le cas en septembre 2016 et il avouait même consommer du quinoa pour prendre un peu soin de son corps.
Je ne peux pas commencer une campagne électorale en mettant au maximum de mon poids. Il y a un rapport entre le poids que l'on pèse et le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Et le sommeil a un rapport avec la mémoire. Ça peut vous paraître un peu compliqué, mais maintenant que les gens étaient dans les Jeux Olympiques, ils vont comprendre ces trucs-là. C'est un sport de haut niveau.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Agnès.
Oui, même s'ils sont préparés et accompagnés, s'ils prennent soin de leur corps, les candidats qui arrivent à ce stade de la compétition politique ont-ils aussi de meilleures dispositions au départ pour gérer le stress, Patrick Légeron?
Oui, tout à fait. Il y a une sélection naturelle qui s'opère au fil des années. Alors la sélection naturelle de politiciens, c'est évidemment leur capacité intellectuelle, leur programme, leur soutien dans des partis politiques, etc. Mais on oublie que la résistance physique et la résistance au stress en éliminent un certain nombre. Et ça, c'est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a beaucoup de facteurs de stress, il y a beaucoup de facteurs de protection. Le principal facteur de protection, c'est d'abord le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Parce que vous savez, on voit ça également dans toutes les activités professionnelles. Moi, je considère qu'être politique, c'est aussi un métier. Dans toutes les activités professionnelles, les gens qui ont un sens très fort de leur activité parce qu'ils trouvent ça passionnant, intéressant, ils ont l'impression d'avoir une mission, eh bien, résistent beaucoup plus au stress que les gens qui font des tâches inutiles, sans intérêt. Donc, le sens est très fort. Ils ont également énormément de soutien. La ferveur des candidats, de leurs supporters, l'ambiance qu'ils reçoivent un petit peu de leur entourage les soutiennent considérablement, mais ils doivent aussi extrêmement développer des propres capacités psychologiques eux-mêmes. Et parmi toutes ces capacités, c'est de raisonner positivement. Au lieu de se focaliser un peu comme un sportif de haut niveau, vous savez, l'entraînement psychologique des hommes politiques ressemble étonnamment à celui qui est donné à des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire être capable d'aborder une compétition sans surinvestir, c'est-à-dire évidemment attacher beaucoup d'importance, mais pas avoir dans sa tête cette espèce de petite phrase, cette petite voix qui vous dirait « si tu loupes, c'est catastrophique », parce que là, ça vous met un niveau de stress extrême. Il faut aussi qu'il soit capable de repérer sans cesse ce qui est positif, se souvenir d'une dame qui lui a dit que c'était formidable ce qu'il faisait, plutôt que de cette personne qu'il a eue, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis, dernière chose, ce sont toutes les émotions. Un homme politique est traversé par des émotions permanentes, comme tout être humain, mais peut-être exacerbées. Évidemment, des émotions de plaisir, des émotions de fierté, des émotions d'attente de résultats favorables, mais aussi des émotions négatives, comme la peur de perdre, la colère, la révolte, le découragement. Et là, on est dans un registre que les psychologues connaissent bien, celui de l'intelligence émotionnelle. Gérer toutes ces émotions, être capable de fonctionner positivement. Et on voit certains candidats qui sont davantage sur le registre positif que le registre négatif, et on sait bien qu'un fonctionnement positif est quelque chose qui vous maintient dans un bien-être et aussi qui vous protège au niveau de votre santé.
Ouais, Patrick Légeon, très vite pour terminer, les tout derniers, justement, ces monstres politiques qui sont capables juste de mener des campagnes présidentielles et qui ont franchi toutes les étapes de la sélection naturelle, on pourrait dire les choses comme ça, sont un peu des surhommes quand même ou pas?
Oui, d'une certaine façon, ce sont des surhommes, mais je veux dire, il faudrait pas croire que ce qu'ils pratiquent pour eux-mêmes n'est pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire comme vous le citiez avec un candidat, M. Mélenchon, l'hygiène de vie, le développement de fonctionnement psychologique plus efficace, et vous savez, au-delà des politiques, dans les milieux du travail, auprès de cadres dirigeants, de responsables, on voit bien que ce sont les mêmes approches d'augmentation de sa résistance au stress. Dans nos environnements aujourd'hui, et c'est encore plus vrai pour les politiques peut-être en période électorale, on sait bien que le stress est omniprésent et que finalement, une des choses qu'il importe pour chacun de nous de bien faire, c'est de développer ce qu'on peut appeler des compétences, au sens le plus technique du terme, des compétences à gérer le stress, parce que non seulement ça vous maintient dans un bien-être, ça vous évite aussi des décompensations pathologiques, mais également ça vous permet d'atteindre la performance. Il n'y a pas de performance sans une bonne gestion du stress.
Merci Patrick Légeron. Vous êtes également l'auteur d'un livre, Le stress au travail, publié chez Odile Jacob. Et puis on peut retrouver également votre interview sur le site de Science et Avenir. Merci à vous. Et Agnès, à bientôt.
À bientôt.
Merci. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il se dit un peu choqué par la nouvelle. Le français Yves Meyer, 77 ans, vient de remporter le prix Abel. C'est l'équivalent du Nobel de mathématiques. L'Académie norvégienne des sciences et des lettres récompense ce retraité de l'École normale supérieure de Paris-Saclay pour son rôle central dans le développement de la théorie mathématique des ondelettes. Nous en reparlerons demain dans l'émission. Le venin d'araignée permet de mieux traiter les dommages liés à un accident vasculaire cérébral. C'est ce qu'avancent des chercheurs australiens. Dans ce venin, c'est une protéine qui serait particulièrement bénéfique pour notre cerveau. Elle permet de stopper les mécanismes de détérioration du système cérébral et de booster les performances neurologiques. Les dégâts causés au cerveau pourraient être diminués de 80% en recourant à cette protéine moins de 2 heures après une attaque. Les AVC qui tuent 6 millions de personnes chaque année et en laissent presque autant avec des séquelles neurologiques irréversibles. Et puis le train pour le climat est entré aujourd'hui en gare d'Austerlitz, voie 21. Il s'agit d'une initiative qui vise à sensibiliser aux enjeux climatiques. C'est toute une rame de train qui a été rhabillée et réaménagée pour l'occasion. À l'intérieur, une exposition justement présente les solutions possibles au changement climatique en cours. Le train devrait sillonner le territoire français dès l'année prochaine. Allez, le regard posé sur la trisomie 21, notre dossier dans un instant.
No, I don't believe him. But know that I've been grieving. Know that I've been holding out, hoping to receive him. I've been holding out for G, but he was nowhere to be seen when I was bleeding. Cousin with the choking and the wheezing. But still he dreaming, smoking potent in the evening. This is only for the heathens. Holding to the souls who need redeeming from the demons. Still ain't folding when it's freezing. There ain't no one to believe in. I'm on that man's side, damn right, doing it myself from a landslide. Stand by, didn't need no help from no damn guy. Man, bye, I've been making waves all my damn life. Plan might step to the letter and I stand by it. Try it, we ain't holding back if it backfires. Lax, not the ones who carry crack till they're back tired. Thought they'd make a meal till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying I ain't like them damn liars. Trust. Told them I get like them damn like it. So keep your mouth closed shut. Eyes wide open when that doubt rolls up. Cause if the drought shows nothing but the clowns, hold nothing but the sound, I'll be running till the ground open up. Cause the best don't change, clinging to that cold one. My mother said there's no love until you show some. So I showed love and got nothing, now there's no one. You wonder why I couldn't keep in tow, son. I wonder why my dad didn't want me, ex didn't need me. Half of them left and the rest finna breeze me. Gets blessed till I second guess, rest till it frees me. There's nothing to believe in, believe me. Bit of life after death. Scattered my ashes when it's my time to rest. With the lines I'm obsessed, rhymes I possess, can't deny. Seen the biggest guys cry to confess in a breath. Fresh death, pass in the chest, unimpressed with the cess. Left scars in the flesh, he's the best. Worst kept sparring in jest, saying star never bar too far from the nest. So I never left and never thought about doing so. I took and fro from that prime time to a home. You see, I'm viewing those nights I should have known better. Like whatever, still my bread to say I'm too involved. But who would know what the family first is? Till your dreams see three family hearses. Worst is, what it mean to speak at the service? So I penned a couple bars, didn't need to rehearse this.
L'œil carneur à l'instant.
La tête carrée. Sur France Inter.
Quelle est aujourd'hui la situation des personnes trisomiques et de leurs familles? Quelles sont les idées reçues qui perdurent? Ce sont donc les questions posées dans notre dossier à l'occasion de la journée internationale de la trisomie 21. Et pour en parler, répondre à vos messages et vos témoignages, Karine Vassier est avec moi en studio. Vous êtes sociologue à l'université Paris 13 et chercheuse au centre IRIS, c'est l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Et vous avez réalisé justement un travail d'enquête autour de la trisomie et de la stigmatisation. Et puis en duplex des studios de France Bleu Loire-Océan, à Nantes, Élodie Bourdin. Vous êtes la présidente de l'association Rien qu'un chromosome en plus et vous êtes la maman, je le disais tout à l'heure, de trois enfants trisomiques et les auditeurs nous rejoignent avec les messages donc sur le site de l'émission. Élodie Bourdin, la trisomie 21, c'est cette anomalie chromosomique fréquente. Il s'agit de ce chromosome en plus, hein, comme le dit le nom de votre association.
Oui.
On connaît bien la maladie aujourd'hui.
Comment ?
On connaît bien la maladie aujourd'hui.
Ah bah alors moi aujourd'hui j'irais plutôt à vous dire que ce n'est pas forcément une maladie mais plutôt un handicap, parce qu'une maladie on peut tout faire pour y guérir. Mmh. Et aujourd'hui on aura un chromosome en plus toute sa vie. Donc aujourd'hui c'est plutôt pour moi un handicap. On peut bien vivre. Ce qui nous empêche de bien le vivre aujourd'hui, c'est la société et le regard porté sur les enfants, sur les jeunes et sur les adultes.
Karine Vassy, dans quel contexte justement vous avez fait ce travail autour de la stigmatisation de la trisomie 21?
Cette première enquête, là, je l'ai faite avec une étudiante donc nous avons interviewé des parents d'enfants avec trisomie 21 pour connaître leur regard sur les professionnels du soin et les professionnels de l'école, comment ils prenaient en charge leurs enfants. Parce que ces parents disent que finalement les petites vexations, les petites brimades dans l'espace public, ça les dérange pas tellement. En revanche, les attitudes un peu discriminatoires de professionnels, là, ça les blesse beaucoup plus.
Oui, comment vous avez opéré alors pour mener cette enquête exactement ?
On a pris contact avec des parents par des associations de parents d'enfants. Avec une trisomie 21 ou un médecin professionnel, médecin libéral qui s'occupe de ses enfants.
Et donc vous avez pu interroger toutes ces personnes hein, justement pour essayer d'en tirer des grands traits.
Hein, oui, c'est pas un gros échantillon, mais ça permet d'avoir déjà une idée.
Ouais. Élodie Bourdin, alors parlons d'abord un tout petit peu du handicap en lui-même. La fréquence de la trisomie 21, elle augmente avec l'âge de la maman, ça on le sait bien aujourd'hui.
Alors, elle augmente avec l'âge de maman, puis il y a surtout aussi des pics. Alors, moi, je suis loin d'être médecin, mais je sais qu'il y a aussi des pics assez jeunes, hein, autour de l'âge de 20 ans aussi, où les enfants trisomiques peuvent arriver aussi. Donc, il y a plusieurs âges aussi, mais la grosse partie est après 40 ans, oui. Mmh.
Cette trisomie 21, qu'on appelle également le syndrome de Down, c'est ça?
Oui, en anglais.
Oui, pour quelle raison exactement?
Je pense qu'il y a une mode dans le langage français aujourd'hui qui est de parler beaucoup anglais. Et c'est simplement pour ça aussi qu'on le traduit parfois en anglais aujourd'hui. Mmh.
Et puis je crois que c'est aussi le nom du découvreur en Angleterre, je crois qu'il s'appelait London Down, bien justement sûr. En 1866. Et puis je parlais tout à l'heure du français, Édouard Seguin, qui a été le premier justement à décrire la maladie à la Salpêtrière, donc là aussi au 19e. Les caractéristiques physiques, là encore, Élodie Bourdin, engendrées par la trisomie 21, on les connaît bien. Ils sont très identifiables, évidemment. Vous nous en donnez quelques-uns?
Ils sont identifiables. Et puis, alors après, on frôle aussi un petit peu la stigmatisation. Mais il y a évidemment des choses qui font que, dans la rue, aujourd'hui, on reconnaît les enfants, l'adulte ou jeune porteur de trisomie 21. Mmh. Bah, ils ont un visage un petit peu plus rond. Ils ont des yeux un petit peu bridés. Il y a des petites choses comme ça qui se mettent, qui sont un peu plus visibles à l'œil nu. Après, il y a des choses qui aussi disparaissent. Je crois que on évolue tous. On voit que les enfants d'aujourd'hui, lambda, naissent plus grands qu'avant. Mmh. Et ben aujourd'hui, un enfant trisomique, il n'a plus cette grosse nuque comme il y a plus de 20 ans, ouais. On les pouvait aussi les repérer pendant les grossesses. Aujourd'hui, ils ont un cou comme n'importe quel enfant. Ils ont plus forcément non plus ce pli palmaire dans le creux de la main. Donc, ils évoluent aussi. Et donc, il y a des choses qu'on voit à l'œil nu, puis d'autres qu'on ne voit plus.
Ouais. Est-ce qu'on a toujours des problèmes de malformation cardiaque pour ces personnes?
Oui, c'est presque 45% des enfants porteurs de trisomie 21 au niveau de la cardiopathie.
Ah oui, c'est beaucoup quand même, effectivement. Et ça, ça évolue peu?
Ça évolue peu parce que je pense que ça fait partie de leur fragilité de santé. Mmh. Donc, c'est des choses qui se passent pendant la grossesse aussi. Donc, c'est des choses qui ne vont pas forcément évoluer. Ce qui évolue, c'est la prise en charge après.
Oui. Et sur la taille des personnes, la croissance justement des personnes trisomiques, là aussi, il y a toujours un tassement de la croissance après un certain âge?
Alors, pas forcément après un certain âge, mais quand ils peuvent être assez petits et puis à un moment donné, ils se mettent à grandir. Mmh. Mais après, il y a aussi un aspect génétique qui est là. Moi, sur mes trois, j'en ai un qui est tout petit et qui, je pense, restera petit. Mmh. Et j'en ai deux qui sont dans des courbes classiques d'enfants normaux. Et voilà. Ça dépend vraiment aussi de l'aspect génétique.
Absolument. Et sur la déficience intellectuelle, alors là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Elle est présente chez la plupart des personnes trisomiques?
Alors, pour moi, la déficience intellectuelle, elle est vraiment avérée. Un enfant trisomique a une déficience mentale. Mmh. Aujourd'hui, tout va changer avec pas mal de facteurs qui restent très importants. Les premiers, ça va être le caractère de l'enfant, l'éducation des parents, à quel moment il arrive au niveau dans la fratrie. Est-ce qu'il arrive premier? Est-ce qu'il arrive dernier? Est-ce qu'il est en plein milieu d'une très grande fratrie ou est-ce qu'ils sont que deux? Tout ça va changer beaucoup aussi et va apporter plus ou moins des choses pour son évolution. Et puis, il y a aussi l'aspect génétique. Donc, tout ce qui va être l'hérédité de la famille. Et puis, l'éducation qui rentre vraiment aussi au cœur de tout ça. Et puis, les valeurs familiales.
Oui, l'influence éducative, ça vraiment, c'est absolument essentiel.
Oui, parce qu'il y a des familles qui, on le voit dans notre association, sur Nantes, il y a des familles qui vont avoir une très grosse importance pour tout ce qui va être lié au scolaire. Mmh. D'autres vont avoir une importance pour tout ce qui va être lié au tout ce qui est culturel ou tout ce qui est vie sociale. Et il y en a d'autres qui vont avoir une capacité à pouvoir parler en plusieurs langues à leurs enfants. Et ben, on a des enfants qui vont être bilingues dès l'âge de 3 ans. Ça fait partie de leur quotidien. Et ce que va mettre en place la famille dans l'éducation va amener à ouvrir l'enfant sur quelque chose. Et suivant ses capacités, il va prendre ce qu'il peut prendre. Et c'est ça qui est important.
Écoutons la voix de Lino Ventura. C'était en 1965, qui était justement le papa d'une enfant trisomique. C'était au journal de 13h, à l'époque sur France Inter.
Il y a aussi un autre problème qui est le plus atroce de tous, à part celui de sauver les enfants et de sauver la détresse des parents. C'est le problème majeur. C'est qu'avant, ces enfants s'éliminaient d'eux-mêmes. Maintenant, par des soins, on les maintient en vie, ayant donc le courage et la dignité de les emmener jusqu'au bout de leur vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, à 20 ans, ce sont des êtres qui n'ont plus le droit à rien. Et même la sécurité sociale ne les prend plus en charge. Et quel est le grand drame, la grande détresse des parents? C'est toujours éternellement le même thème. Quand nous ne serons plus là, que deviendront-ils? Voilà pourquoi j'ai voulu faire tout ça. C'est un problème, cette plaie de la société, c'est un problème que la société ne doit plus ignorer et elle doit y faire face. J'attends donc que des institutions se forment, que des centres de rééducation se forment, au même titre que nous l'avons fait pour les polios, pour les aveugles, pour les sourds-muets, pour les tuberculeux, alors qu'il n'existe rien pour ces enfants.
Voilà, Lino Ventura en 1965. Il a été d'ailleurs à l'initiative de l'association Personnage. Karine Vassy, est-ce que vous sentez quand même que les choses ont évolué depuis ce message poignant là de Lino Ventura?
Oui, il y a maintenant des institutions qui existent à la fois pour le côté éducatif et pour le côté soin. Mais c'est vrai que les parents d'enfants avec trisomie 21 disent que pour les enfants, c'est encore il y a encore pas mal d'institutions, mais après, pour la vie adulte et personnes âgées, eh bien, c'est plus difficile.
Ouais, Élodie Bourdin.
Alors oui, ce que vous dites, Karine, est vraiment important parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont mises depuis la loi 2005 en place pour les enfants trisomiques, handicap mental ou autre handicap. Mais on manque encore beaucoup de structures. Aujourd'hui, sur la ville de Nantes, via la DAPEI et la PAGE, on manque de plus de 50 places pour enfants trisomiques sur les institutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enfants-là sont dans les familles, très peu pris en charge, ou alors mis à l'école parce que il faut les mettre quelque part. Parfois, les parents veulent essayer de maintenir leur travail et c'est pas toujours facile. Il y a un gros pourcentage de papa ou de maman qui ne travaillent pas dans les familles où il y a un enfant trisomique. Et aujourd'hui, je pense que il manque de la place chez les enfants et après, ben, quand ils sont pris en charge dans une école qui n'est pas adaptée pour eux ou laissés à la maison, bah, ils développent d'autres handicaps derrière. Et c'est ça qui est important de souligner. Et puis, c'est de pire en pire, plus l'enfant, plus le jeune, plus l'adulte grandit.
Alors, la question du dépistage prénatal aujourd'hui, Karine Vassy, évidemment, cette question est très importante parce que on peut parler vraiment d'un dépistage massif hein, aujourd'hui du handicap. J'ose pas parler de maladie. C'est une réalité aujourd'hui et ça a changé beaucoup de choses aussi.
Oui, en France, il est devenu quasi systématique, puisque maintenant 85% des femmes enceintes font ce dépistage de la trisomie 21. Et d'ailleurs, un grand nombre d'entre elles croient que ce dépistage est obligatoire, ce qui est faux. Puisque ce que disent les pouvoirs publics, des arrêtés, des rapports de la Haute Autorité de Santé, c'est que les praticiens doivent proposer systématiquement le dépistage prénatal aux femmes enceintes. C'est normal, hein, pour assurer une égalité de tous devant l'information. Mais on a glissé insidieusement vers un dépistage fait systématiquement.
Alors justement, on a le témoignage de Laure qui nous écrit sur le site de l'émission. Elle est médecin généraliste. Il y a quelques années, écrit-elle en stage, j'étais choquée de l'attitude d'un de mes maîtres gynécologues devant une patiente dont le bébé présentait un taux élevé de risque de trisomie et qui exprimait son envie de garder son enfant. Il lui a dit « À l'heure actuelle, c'est un crime de ne pas avorter. Que penser d'une telle remarque? Les enfants trisomiques n'auraient-ils plus le droit de naître? Pouvons-nous parler d'eugénisme ?» Élodie Bourdin, votre réaction à ce message de Laure.
Bah écoutez, elle peut être que fraîche. Hier, nous étions pour l'association à l'ONU à Genève pour défendre ce droit à la vie des personnes trisomiques 21. Et quand en face de vous, vous avez une jeune femme de plus de 25 ans qui arrive d'Argentine et qui est là pour témoigner et dire que aujourd'hui, regardez-moi, je ne suis pas un monstre, j'ai le droit à la vie et je suis heureuse d'avoir des amis, de travailler comme je peux et de vivre et d'être heureuse. Qu'est-ce que vous faites de ça? Et la question, elle est là. Elle est vraiment sur le fait, comme vous disiez, Karine, de ne pas laisser le choix aux femmes. C'est quelque chose qui se fait systématiquement, on en parle à peine et la prise de sang est faite et on envoie des résultats sans aucun accompagnement et c'est surtout qu'elle n'est plus proposée. Il y a des années, elle était proposée aux femmes et aujourd'hui, elle n'est plus proposée, elle est faite systématiquement.
Karine Vassy, on peut parler d'eugénisme, vraiment, aujourd'hui? Alors, une forme d'eugénisme, en tout cas?
Donc, tout dépend de la définition d'eugénisme qu'on prend. Il y a des sociologues et des historiens qui disent que des philosophes, des anthropologues qui parlent d'eugénisme. puisqu'on cherche à éliminer une certaine partie de la population sur leurs caractéristiques, ici des caractéristiques génétiques. Et puis, il y a d'autres chercheurs en sciences sociales qui sont pas d'accord et qui disent que non, c'est pas de l'eugénisme. Eugénisme, c'est un vocabulaire qui appartient au passé, qui a été forgé au 19e siècle, hein, par Galton, qui est à l'origine de ce mouvement d'eugénisme. Et donc, ça correspond à une certaine doctrine, à certains systèmes politiques, certains types d'actions. Par exemple, stérilisation des personnes jugées indésirables, oui. Des choses qui ont été faites aux États-Unis, dans les pays nordiques.
Mais c'est bien ça dont il s'agit finalement aujourd'hui, dans le refus au fond de l'imperfection aussi d'un enfant à la naissance. C'est-à-dire qu'on refuse ça même aux parents qui le souhaitent pourtant dans certains cas.
Oui, mais ce terme-là n'est pas accepté par tous les chercheurs en sciences sociales parce que disons que là on l'emploie un petit peu hors contexte, hein. Ça désignait des mesures coercitives, obligatoires, imposées par des états autoritaires, souvent à des gens enfermés en institution, par exemple, hein, dans les hôpitaux, dans les prisons. Et donc maintenant, ce qui se joue, c'est quand même un petit peu différent.
Oui, sauf que, Élodie Bourdin, on voit parfois la réaction du corps médical même, qui se trouve très surpris de voir des parents désirer un enfant dont ils savent qu'il sera trisomique.
Oui, on a l'annonce du handicap est encore rude aujourd'hui en 2017. On a des témoignages de familles quand ils l'ont appris à la naissance, on leur a à peine posé sur le ventre ou à peine présenté au papa et à la maman, en leur disant écoutez, on vous le présente pas parce que vous pouvez l'abandonner, il est trisomique 21. Ça, c'est aujourd'hui en 2017 dans le département et partout en France. C'est on a l'impression d'être encore il y a énormément d'années, il y a plus de 50 ans, où là les choses pouvaient encore s'entendre. Aujourd'hui, en 2017, il faut accompagner les familles. Alors nous, on a un gros travail là qui a été mis en place avec les maternités de Nantes et de l'agglomération. On commence à très bien travailler avec certaines polycliniques, qui donne le flyer de l'association famille. Et les familles, au moment où elles sont prêtes à le faire, donc parfois dès la maternité, au bout d'un ou deux jours, mais parfois aussi au bout de deux mois, après avoir pris le temps d'accueillir l'enfant, pris le temps d'avoir digéré en famille les choses, peuvent nous appeler et donc on les accompagne à ce niveau-là. Donc c'est important qu'on puisse bien travailler avec les services de maternité du département, parce que ça soulage les familles et les premiers témoignages que nous avions encore dimanche étaient là. On se sent pas seul.
Justement,
on met en avant tout de suite ce qui est plutôt heureux que difficile.
Karine Vassy, vous avez souvent dans ces témoignages eu écho de la surprise, voire justement de la désapprobation de l'entourage ou du corps médical face justement à ce désir d'avoir un enfant trisomique.
Vous voulez dire avant la naissance ou après?
Au moment du diagnostic, en tout cas, sur le choix qui est fait.
Oui, alors là, c'est apparu dans notre enquête auprès de parents d'enfants avec une trisomie 21. Quand, suite à un diagnostic, des parents, un tout petit nombre de parents, décident de conserver la grossesse, d'aller jusqu'au bout, ils peuvent se heurter à des remarques de désapprobation de la part des professionnels de la santé. Oui.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre dossier et puis les témoignages qui arrivent en ce moment sur le site de l'émission franceinter.fr. Calypso Valois et le jour sur France Inter. Thierry Dupin pour la programmation musicale de notre Tête au Carré à l'occasion donc aujourd'hui de la journée internationale de la trisomie 21. Et mes invités, donc la sociologue Karine Vassy avec mon studio et Élodie Bourdin à Nantes, présidente de cette association Rien qu'un chromosome en plus. Élodie Bourdin, on a beaucoup commenté la semaine passée la présentation du bulletin météo sur France 2 par une jeune femme de 21 ans, Mélanie, qui justement a une trisomie 21. On va écouter justement ce qui s'est passé sur France 2 la semaine dernière et on en dit un petit mot ensemble juste après.
Je vous propose d'accueillir notre invitée d'honneur ce soir, Mélanie Ségard. Alors quel temps prévu pour notre week-end? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie.
L'horoscope en deux, il y a des nuages au nord, de la pluie, des soleils en Bordeaux.
Alors pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux pour dimanche.
Il y a des nuages trois quarts du pays, de la pluie, le soleil à Marseille, il y aura très frais.
Et le moment que tout le monde attend, l'éphéméride, Mélanie.
Mercredi 15 mars, on fait des sandwiches, comme sur tout l'Elvis, pensez à tous sur France 2.
Voilà, le bulletin météo, c'était le 14 mars dernier, record d'audience justement pour la chaîne, avec la présentation donc de Mélanie, puis record également sur les réseaux sociaux. Élodie Bourdin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative?
J'ai trouvé que l'UNAPI avait vraiment profité du moment et j'ai trouvé ça très très chouette. C'est en profitant de ces moments-là qu'on peut essayer de faire bouger les choses. Et puis après, le moment qui a été pas mal vu sur Facebook, sur tous les réseaux, sur à la télé avec les audiences sur France 2 qui étaient importantes. Je trouve que c'était chouette. Ça montre aussi un petit peu l'ouverture de certaines chaînes. Ça fait avancer les choses. Ce qu'on voit pas à l'arrière, c'est que pour Mélanie, ça a été 4 jours de préparation. Là, je trouve que moi, j'aurais peut-être pas fait aussi bien.
Bon, en tout cas, vous pensez que ça fait avancer les choses, justement. Ça permet de mieux comprendre, en tout cas, le handicap.
Plus on va réussir à montrer à la société qui est pas ouverte que des choses sont possibles et de façon très simple comme celle-ci, plus les gens vont s'ouvrir. En fait, je pense que le regard de l'autre est aussi beaucoup lié à la méconnaissance des gens.
Alors Élodie Bourdin et Karine Vassy, il y a beaucoup de commentaires sur ce mot d'eugénisme employé tout à l'heure. Sylvie nous dit « J'ai bien entendu que le terme d'eugénisme n'est pas approprié, mais quel mot a-t-on pour dire ce qui se passe actuellement ?» Et Juliette, elle qui nous dit de son côté, toujours sur franceinter.fr, « Très choquée par cet eugénisme organisé que représente le dépistage systématique de la trisomie 21, souvent imposé aux futures mères. » Karine Vassy, un commentaire alors.
Disons que il y a des choix politiques, des phénomènes volontaires, mais il y a aussi beaucoup de phénomènes involontaires ou des négligences à tous les niveaux.
C'est-à-dire
qui font qu'on arrive à un dépistage systématique. Eh bien, c'est toute une série de petites négligences. Par exemple, la négligence de la formation des professionnels de la santé. Ils sont très peu formés au handicap mental et quand ils doivent présenter ces tests de dépistage prénatal de la trisomie 21, ils ne sont pas forcément formés. Certains peuvent pas très bien connaître même les aspects techniques et sur les aspects humains, là, ils n'ont aucune formation. Et c'est pour ça qu'on est allé voir avec des collègues sociologues du Centre National de la Recherche Scientifique comment ça se passait dans d'autres pays, en Angleterre, aux Pays-Bas.
Où les médecins sont mieux formés sur la question?
Eh bien, il peut y avoir des communications, bien sûr, de la formation à la communication avec les femmes enceintes. Par exemple, la communication non directive. Comment fait-on pour présenter un test médical sans influencer l'opinion de la personne qui est en face, pour respecter ses opinions, ses attitudes, l'amener à élaborer ses choix. Voilà, donc on néglige un peu les aspects humains, les aspects communication. On fait rembourser par la sécurité sociale les tests. Donc c'est tout l'aspect technique, la réalisation des tests dans les laboratoires. Donc tout ça c'est bien financé par l'argent public. Et puis on néglige les aspects humains. On néglige aussi, par exemple, des choses comme la durée de la consultation. Ça, notre comparaison internationale l'a montré très clairement. En France, la première consultation d'une femme enceinte avec un professionnel de la santé, ça dure 30 minutes. 30 minutes alors qu'il y a énormément de choses à faire la première fois qu'elle vient pour un suivi de grossesse. des questions sur ses antécédents de santé, ceux du futur papa, il y a un examen physique, il y a tout un dossier à remplir, donc tout ça en 30 minutes, ben c'est comment voulez-vous qu'on ait encore du temps pour parler du dépistage prénatal et calmement et laisser aux gens le temps de réfléchir. En Angleterre et aux Pays-Bas, cette première consultation dure une heure.
Élodie Bourdin, justement, ces tests de dépistage aujourd'hui, ils sont de plus en plus efficaces, ce qui fait qu'évidemment, on pratique de plus en plus cet avortement. C'est à long terme une façon aussi de parler encore du génisme, une fois de plus, j'emploie ce mot, mais ces enfants trisomiques, on va en voir probablement de moins en moins à l'avenir ?
Ah bah alors, ça c'est évident. Hein. Moi, je pense que le terme eugénisme est un mot qui convient à ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, en France, on avait 2000 naissances d'enfants trisomiques avant 2014. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un par jour. Mmh. Donc 360. Aujourd'hui, évidemment, on en aura de moins en moins. Alors, quoi dire à nos enfants dans quelques années en leur disant bah, vous êtes un petit peu les derniers parce qu'on ne veut pas de vous sur la Terre ? Moi, je serais très très mal à l'aise en tant que maman. Et puis la recherche aujourd'hui en Espagne et en France est importante pour la trisomie 21. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on aura de moins en moins d'enfants, de jeunes et d'adultes trisomiques qui pourront faire avancer la recherche. La recherche, il y a des années, a pu faire avancer avec des tests ou des essais cliniques des médicaments pour les aider à mieux gérer le diabète, à mieux gérer des maladies cardiaques. Bah aujourd'hui, si on n'a plus entre guillemets ces enfants-là, ces cobayes qui pourront faire grandir les autres autrement, qu'est-ce qu'on va faire ?
Un témoignage de Sophie qui nous dit ceci. Lors de ma première grossesse à 28 ans, la première échographie, on m'a dit que nous avions un risque très élevé de mettre au monde un enfant trisomique à cause de la clarté nucale épaisse, justement. Le médecin nous a annoncé ça, puis nous a dit que vous allez passer une amniosynthèse. Il y a un faible risque que vous perdiez votre bébé, mais au moins vous saurez s'il est trisomique. Vous avorterez, vous êtes jeune, c'est votre premier enfant, vous en ferez d'autres. Je ne caricature pas les propos, dit Sophie. Je ne sais pas si vous imaginez le choc. Nous avons mis plusieurs semaines à nous décider à faire l'amniosynthèse. Finalement, l'enfant n'était pas trisomique. Voilà pour ce témoignage. Et puis d'autres témoignages, comme par exemple Nadine qui nous dit « Quand j'ai rencontré mon petit-fils trisomique, ce fut un coup de foudre. C'était un bébé qui posait un autre regard sur moi. Ce regard ne me quitte jamais. Il n'attendait que l'amour des autres. » Et puis Lou nous dit, elle, de son côté, « Les trisomiques 21 sont des personnes à part entière, précieuses, touchantes et émouvantes. Et j'invite, dit-elle, les auditeurs à revoir le film Le Huitième Jour, sorti en 96, s'ils veulent compléter les informations qualitatives apportées justement par l'émission. » Karine Vassy, vous confirmez qu'il faut voir ce film aussi. Oui. Élodie Bourdin, justement, quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui pour essayer de changer ce regard et puis de faire bouger également les choses ? Par exemple, dans le domaine de la scolarité, là, vous avez des initiatives aussi ?
Alors, on essaye. La première initiative, et l'initiative, je dirais, du jour, c'est l'école de mes deux derniers qui a bien voulu travailler avec l'équipe de parents d'élèves pour mettre dans le cahier des enfants de l'école un petit mot disant que c'était la journée mondiale aujourd'hui et que pour montrer la différence de chacun, que c'était important, on pouvait tous venir avec des chaussettes dépareillées. Et ce matin, j'ai amené mes deux petits et les maîtresses, les ATSEM, les auxiliaires de vie scolaire. Et certains enfants et parents ont joué le jeu, avaient leurs chaussettes dépareillées et ont pu comme ça en parler en famille. Et c'est, je pense, en faisant des toutes petites choses comme ça qu'on va vraiment faire avancer les choses.
Apolline nous écrit, elle nous dit ceci dans la classe de ma sœur, excusez-moi, je vous donne son message. En primaire, il y avait un garçon atteint de trisomie 21. Il a réussi ses classes primaires sans redoubler en grande partie grâce au soutien des enseignants comme des élèves de sa classe. Malheureusement, il n'a pas pu poursuivre ses secondaires en enseignement traditionnel et a été envoyé en enseignement spécialisé. Impossible pour ses parents de trouver un enseignement adéquat pour lui. Ça, c'est un problème récurrent, Karine Vassy.
Oui, tout à fait. C'est apparu assez fortement dans les témoignages de parents. Plus on avance dans le système d'enseignement, moins il y a de place pour les enfants avec une trisomie 21 dans l'école ordinaire. Hein, parce qu'il y a des classes spécialisées dans les écoles ordinaires, les CLIS et les ULIS. Et plus on avance dans la scolarité, moins il y a de place dans ces classes.
Ouais. Et pourtant, c'est pas à l'école qu'on voit le plus de stigmatisation, justement. Lorsque ces enfants sont intégrés, les choses se passent plutôt pas mal, non ?
Oui, il y a des parents aussi qui disent qu'ils sont très, très contents de la manière dont leur enfant est pris en charge, hein, à l'école. et aussi par des professionnels de la santé. Il faut peut-être pas non plus exagérer notre regard critique. Il y a aussi des parents qui sont satisfaits.
Élodie Bourdin.
Oui, et c'est important de le noter. Je pense que il y a deux choses. Il y a le maintien à l'école dit classique, et puis il y a aussi de très bonnes prises en charge en milieu spécialisé. Tous les enfants trisomiques, jeunes ou adultes, sont différents. Moi, je le vois dans ma propre famille aujourd'hui. Mon aîné a été très très tôt en IME parce que le système scolaire lui convenait pas. Mmh. Et aujourd'hui, à 8 ans, il se met à vouloir apprendre à lire et écrire. Et est-ce que c'est important qu'il s'y mette aujourd'hui à la place de 5 ans? À mes yeux, c'est pas important. L'important, c'est qu'il en ait envie pour pouvoir avancer plus vite.
Oui, Marjorie
donc,
nous dit.
Oui, pardon. Il y a des besoins un peu partout, et soit à l'école, il y a des manques de, il y a des manques importants de formation, comme vous le nommez, et des manques de moyens. Mmh. Et à côté, sur les structures dites spécialisées, qui sont aussi parfois très compétentes, il y a un manque de moyens important.
Marjorie nous écrit en nous disant « J'ai eu droit à un regard ahuri de ma gynécologue en début de ma seconde grossesse lorsque j'ai refusé justement le test de trisomie 21. J'ai dû me justifier en expliquant que peu importe le résultat, pour moi ce diagnostic ne justifie en rien une IVG. » Vous avez recueilli beaucoup de témoignages en ce sens,
oui,
Karine Vassil,
oui,
dans vos
oui,
enquêtes.
Tout à fait. C'est-à-dire que on a donc observé des consultations de femmes enceintes avec des médecins ou des sages-femmes dans un hôpital de la région parisienne. Mmh. Et c'était très frappant de voir que les femmes qui acceptaient le dépistage prénatal par les marqueurs sériques, qui signaient le formulaire de consentement, là on leur demandait rien, on trouvait ça normal, c'était la routine, et c'était tenu pour acquis que de toute façon elles allaient toutes accepter. Et les quelques femmes qui hésitaient ou qui étaient réticentes, celles-là, le professionnel de la santé leur demandait de se justifier.
Élodie Bourdin, il nous reste quelques secondes, rien qu'un chromosome en plus, donc c'est le nom de votre association. Comment on peut vous aider de façon concrète?
De façon concrète, aujourd'hui, nous, on recherche un parrain pour l'association. Donc ça peut être quelque chose d'assez concret. On recherche quelqu'un qui peut nous soutenir au moins une fois par an auprès des enfants sur le thème de la musique, le partage, la chanson, le sport. Donc voilà. Et puis après, c'est simplement savoir qu'en Loire-Atlantique, on est là pour soutenir les familles et qu'on fait des choses très différentes. Alors des sorties, des fêtes. On essaie de soutenir aussi les frères et sœurs qui ont une place plus importante que d'autres.
Et vous avez un site internet, on peut donner l'adresse d'ailleurs, rien qu'un chromosome en plus, et cette adresse est sur le site de la Tête au Carré. Voilà, l'émission s'achève. Élodie Bourdin, merci beaucoup, merci aux équipes de Nantes, et Karine Vassy, merci également pour votre venue. À bientôt.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'extraterrestres et d'astronomie.
Oui Mathieu, dans la liste des nombreux mystères que l'astronomie doit résoudre se trouve le sursaut radio rapide. Mmh. Alors rien à voir avec la radio où nous sommes, c'est le Fast Radio Burst dans la terminologie anglaise, ce qui donne l'acronyme FRB. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'une pulsation très brève détectée dans le domaine des ondes radio. La première a été signalée il y a 10 ans et les ondes radio rapides ne viennent jamais de la Terre, ni du système solaire, ni même de notre galaxie. Ils témoignent de phénomènes si puissants que les astrophysiciens sont contraints, pour tenter de les expliquer, de mettre en scène des monstres cosmiques auxquels même les scénaristes les plus paresseux d'Hollywood n'oseraient pas recourir. Alors, ce sont des fusions de trous noirs, des magnétars, des pulsars, des blitzars, et j'ai plus de rime en art.
Bon, en tout cas, des phénomènes extrêmes, visiblement.
Et oui, Mathieu. Du coup, deux chercheurs américains ont essayé, dans une étude publiée le 8 mars, de se passer de ces scénarios cataclysmiques. Ils se sont dit, et si tout simplement les FRB ne faisaient que trahir les promenades dans l'espace d'extraterrestres? Alors, pour bien comprendre cette hypothèse, il faut savoir qu'une des pistes pour les voyages spatiaux du futur est une propulsion par les ondes électromagnétiques qui poussent les vaisseaux dotés de gigantesques voiles, tout comme le vent fait avancer les voiliers. Alors, ça marche comment? Un émetteur situé sur une planète ou installé dans l'espace envoie un rayon qui accélère l'astronef et lui permet d'atteindre des vitesses faramineuses bien supérieures à celles de nos fusées rustiques. Alors, nos deux chercheurs ont effectué tous les calculs pour voir si les FRB pouvaient n'être que la manifestation involontaire de ces émetteurs artificiels. Et la réponse, c'est oui. Un oui assorti de plusieurs conditions. Il suppose que E.T. sait exploiter l'énergie de son étoile pour alimenter des machines dont le diamètre, excusez du peu, serait de deux fois celui de la Terre. Les deux chercheurs ont aussi vérifié que la température des deux émetteurs ne les ferait pas fondre. Les émetteurs, hein, pas les chercheurs, qui sont tout de même un peu fondus pour avoir pondu un article pareil.
Merci pour la précision. Et qu'ont-ils calculé exactement, Pierre ?
Alors, comme ils étaient bien lancés, ils ont établi que ces émetteurs géants pourraient propulser des vaisseaux pesant des millions de tonnes, ce qui correspond à des croiseurs de Star Wars. Ils déduisent aussi de leurs calculs qu'il ne peut y avoir plus de 10 000 civilisations par galaxie capables d'atteindre ce niveau de technologie. Et dans la conclusion de leur étude, ces deux chercheurs se calment un peu et reconnaissent quand même que leur scénario peut expliquer les FRB, mais qu'il est, je cite, « plus spéculatif encore que les hypothèses astrophysiques ». Mais en science, comme vous le savez Mathieu, on n'exclut rien a priori, y compris l'improbable.
On retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément, Pierre Barthélémy ?
Alors le grand dossier dit comment les maladies chroniques qui touchent près de 20 millions de personnes en France chamboulent le secteur médical et hospitalier qui n'a pas été conçu pour elle.
Merci, à la semaine prochaine. Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidal.
Affaires sensibles, le programme.
Aujourd'hui, le drame, le naufrage du Costa Concordia, c'était le vendredi 13 janvier 2012. Il était parfaitement inévitable. Et ça s'est passé. Nous entendrons notre invitée Anne Decret, victime elle aussi de ce naufrage, présidente de l'association et le collectif des naufragés français du Concordia.
À tout de suite.